Le sang pisse au trou dans quoi branle encore la sagaie, lâchée pour tenir les pattes. D'un genou, écraser l'épaule contre terre. Vite, à l'instant, deux autres mains entourent de cuir la hure et serrent. Un souffle, allaitement par le trou qui bulle. Un cri, les yeux au ciel, ce cri que, du corps entier ramassé, les dernières forces longuement hurlent, ronflent dans le sang, grondent, s'étranglent au secret du groin fermé de force. L'animal entend un hurlement continu, sien, qui lui emplit le crâne, mais en bas de l'arbre, ras du sol, presque rien ne monte vers les feuilles. La vie, qui nage dans le sang comme poisson dans la rivière, sort par le trou, quand, arrachée la sagaie brûlante suivie d'un flot, tandis qu'en l'empêchant d'ouvrir la gueule, tirer la langue, il l'empêche de fendre la forêt par son hurlement. Le petit œil, l'autre écrasé au bord des feuilles sèches, un seul petit œil, celui du haut, voit se pencher, bouger au-dessus comme s'il était, lui, tout le miroir de l'eau d'une mare, des faces poilues, des yeux qui passent, tournent à plusieurs, luisent, voient s'ouvrir au milieu des poils une bouche, des dents, mais quant aux mots prononcés, on ne peut savoir s'il les comprend, même les entend, ou si les mouvements du trou sont muets entre moustache et barbe. Imprégnés déjà de son odeur et leurs mains poissées de son sang, ils parlent. Eux-mêmes croient-ils être entendus ? Moins cruels que notre commis qui traînait le cochon devant la soue sur une brassée de paille, couteau à la main. « Ah, dame, tu vas mourir !» en réponse à ses cris aigus. Je disais, et si par malheur il comprend ? Il va renaître fort, peut-être voudra les tuer, mais non, eux le respectent comme fils de lait sa mère, comme mâle qui saillit les truies au flanc soyeux. Ils le lui disent, vite, avant que l'âme enfuie ne laisse d'un coup l'œil fixe et le corps lourd. Peuvent bien dénouer le museau gris qui même ne s'ouvre pas. Sans tarder, leur sagaie passée sous la masse roulante, gore et pec enlèvent la litière, se hâtent, pec approuve le choix de Gore, ne pas chasser dans leur vallée, même pas dans l'autre, ni sur la butte, mais plus loin. Entre l'un devant et le second derrière, la bête abandonnée, pesante, pend au-delà des bâtons. Ils se hâtent de ramener leur premier sanglier. Je les ai vus dans la forêt, ce devait être en 44 après la guerre, mais ils étaient âgés, l'un avait mis sa canne, l'autre taillé une trique, ils emportaient une bête venue mourir à leurs pieds, m'ont-ils dit. Le trou fumant était au-dessus. Peck et Gore sont très jeunes. Ils courent, presque, malgré cette masse pas seulement hérissée, mais rebondie, qui veut tomber sans doute, essayer encore ses pattes sur le sol. Ils sont pressés de couper la viande sous le nez des deux femmes. Voilà. Et je me suis servi d'un souvenir, effectivement, d'avoir vu deux vieux, dont un qui boitait, mais qui avait renoncer à sa canne pour la mettre sous le sanglier et qui se sauvait avec un sanglier que les chasseurs avaient dû tuer plus loin et ils l'emportaient. Mm-hmm. Je m'en suis servi pour remettre ça dans le néolithique.
Là, il y a une chose assez frappante, c'est l'aspect sonore de cette écriture. Est-ce que tu te les lis, les textes,
oui,
à voix haute?
Je fais attention à la sonorité, beaucoup, beaucoup. Oui.
C'est le fameux
gueuloir.
C'est une musique intérieure ou tu les...
Non, souvent...
Tu les essayes ?
Oui, je les essaie. C'est à la fois une musique intérieure, parce que j'y fais attention au son, que ça s'harmonise bien, qu'il n'y ait pas de répétition, etc. Mais très souvent, moins maintenant, mais à l'époque de mes premières nouvelles, je me les lisais tout haut, beaucoup de fois.